Sans accro, la nouvelle émission d'Alexandre, deux fois par mois sur BXFM, avec une version podcast pour les plus distraits.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus dans cette sixième émission de Sans accro, émission consacrée aux dépendances et aux addictions, mais surtout consacrée au parcours de sortie d'addiction. Avec des invités en studio qui viennent nous parler de la manière dont ils ont fui l'alcool, la drogue, le sexe, le jeu, les médicaments, le café, le shopping et beaucoup d'autres. 3, 2, 1, c'est parti.
Bienvenue dans Sans accro, la nouvelle émission sur les dépendances et les addictions. Avec Alexandre sur BXFM.
Et aujourd'hui dans les studios, j'ai deux jeunes garçons. Quand je dis jeunes, ils sont jeunes dans leur cœur. Sur leur carte d'identité, c'est pas la même chose. Pierrick, en face de moi, 54 ans. Greg, ici à ma droite, 62. Soyez les bienvenus, messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Ravi de vous avoir dans les studios. On va parler de vos parcours avant votre arrêt d'alcool, pendant votre consommation d'alcool. Mais ce qui m'intéressera surtout aujourd'hui, c'est votre parcours d'abstinent. Pierrick, vous êtes abstinent depuis 16 ans. Greg, depuis 26 ans, dans une grosse semaine. Voilà, vous avez tous les deux bu pas mal d'années, un petit peu trop. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout de savoir comment est-ce qu'on fait pour tenir. Et si je n'aime pas l'appellation tenir, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre heureux longtemps quand on a déposé le verre. Pierrick, vous avez 54 ans, vous avez un fils, vous êtes psy de formation, travailleur social que vous avez pratiqué pendant 30 ans. Greg, 62 ans, marié, 3 enfants, marketing de formation et actuellement vous êtes consultant en communication. Et vous, vous diversifiez, on racontera pourquoi et comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par le doyen de l'émission, c'est vous Greg.
Oui, merci.
Merci, je n'y suis absolument pour rien, mais en fait, on va peut-être commencer par la raison pour laquelle on s'est connus tous les trois. Parce que dans nos parcours d'abstinents, alcooliques, abstinents, nous avons décidé de venir en aide aux autres. Voilà, de différentes manières. Et nous nous sommes croisés il y a quelques semaines, quelques mois, lors d'une formation en alcoolologie à l'ULB. Lors des présentations, sur une quarantaine d'élèves, chacun avait des professions différentes et nous trois, nous nous sommes retrouvés comme étant les alcooliques abstinents et sans véritable profession autoproclamée. Et là, on s'est tous les trois regardés, on s'est tapé dans l'œil et on s'est retrouvés à la première pause et on a échangé. Et aujourd'hui, vous êtes là parce que vos parcours m'intéressent. Vos parcours intéressent beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement sous l'emprise d'alcool et qu'il y a beaucoup de personnes qui actuellement voudraient savoir s'il est possible de vivre bien et longtemps sans verre. Donc, mon cher Greg, vous, ça fait bientôt 26 ans que vous avez déposé le verre.
Oui.
Et vous vivez bien de tout ça.
Fort bien, fort bien, dès le moment où on a passé cette première phase, évidemment, la plus critique de l'abstinence physique et de cet arrêt de la boisson. Les premiers mois, les premières années sont évidemment les plus difficiles. Ça va évidemment en s'amenuisant. Donc, on ne peut pas dire que c'est simple du jour au lendemain, mais clairement, après 3, 4, 5 ans, on est tout à fait serein par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout de suite retester un verre ni plonger sur une praline, mon chéri. Mais il faut éviter, quoi qu'il en soit, toute tentation et tout risque de reprendre goût. Parce que les connexions avec le cerveau sont ultra rapides, comme avec le tabac. Si on reprend goût, ben très vite, le cerveau s'en souvient et va rallumer toutes les petites...
Les petites cases éteintes, à moitié éteintes. Voilà. À 15 ans déjà, vous commencez à fumer. Et tout de suite, après quelques semaines, c'est déjà le paquet. Personnalité addict et tout ou rien.
Oui, oui, tout à fait. Vouloir faire comme les grands, essayer la clope. Et puis on se rend compte qu'on aime bien. Et à ce moment-là, c'était juste la cigarette. Et puis le tabac arriver à l'UNIF... C'était plus la boisson qui était une nouveauté, donc on a voulu essayer ça. Et là aussi, très vite, après quelques sorties, quelques pains fromage avec du vin, ben on est passé à quelque chose d'un peu plus fort. Et puis, à 21 ans, on était déjà en train de boire un verre.
À 10h du matin, au bar, au lieu d'aller à l'Uni.
Oui, c'est arrivé aussi.
Pas bien, ça, Greg, hein?
Je m'en mords les doigts. non, mais voilà, ça fait partie de cette vie estudiantine. Et c'est clair qu'avec du recul, on se rend compte qu'il y aurait eu moyen d'éviter, mais il y a des choses qui ne se décident pas. Et on plonge. Enfin, personnellement, j'étais très sportif, jamais eu aucune crainte en termes de santé ou autre. Et donc, je pouvais fumer, je pouvais boire. On a toujours l'impression que rien ne peut nous arriver. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est que quand on est jeune et qu'on démarre, je crois que maintenant, les jeunes commencent à boire dès qu'ils ont 13-14 ans. C'est clair qu'on a l'impression d'être au-dessus du lot et qu'on peut y aller. Mais très vite, le corps s'habitue, très vite... l'empreinte se fait et donc je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut se rendre compte qu'il vaut mieux boire intelligemment, si on ne sait pas ne pas boire du tout, que de continuer à le faire de manière tout à fait sans aucune barrière et sans aucun contrôle. Et alors à ce moment-là, ben, les dérives augmentent et ça se prolonge dans les années qui ont suivi aussi.
Boire intelligemment, oui, c'est ce qu'on cherche tous, hein, surtout quand on est alcoolique. Il y a combien de fois est-ce qu'on n'essayait pas de tenter de boire intelligemment? Ensuite, vous faites votre service militaire, là, ça commence à cuver pas mal. Votre vie professionnelle commence, ça cuve de plus en plus. Vous rencontrez la maman de vos enfants, et puis là, c'est la perte de contrôle total.
Oui, comme vous dites, c'est vrai que c'est venu en l'espace quand même de plusieurs années, mais... Après quelques années de mariage, après des difficultés peut-être au niveau boulot, parce que voilà, je changeais de boulot, j'aimais découvrir des nouvelles choses et puis voilà, on est très fort interpellé par plein d'occasions qui se présentent à vous pour prendre un verre. Et quand les tensions augmentent au niveau boulot, elles sont très très fragilisante, et donc c'est là que voilà, j'ai plongé vraiment clairement en buvant un peu trop, entre 30 et 33-34 ans.
Merci beaucoup. Pierrick, vous avez 54 ans, vous avez arrêté de boire il y a 16 ans.
En 2006.
Aujourd'hui, vous respirez la joie, la fraîcheur, la santé, le bien-être.
Merci monsieur.
Et vous allez nous le faire partager. Alors, vous commencez à boire l'UNIF, et à ce moment-là, vous gérez, entre parenthèses.
Voilà, donc je bois pas ou très très peu avant 20 ans. Et donc j'arrive à l'UNIF à 19-20 ans et gain d'ail, je supporte bien la bière, c'est du festif, on se fait des amis, on sort. Il y a, comme disait Greg, les bistrots qui ouvrent à 10 heures où on fait des concours de piles de verres à bière. Et voilà, tout se passe bien, je bois de façon régulière, presque tous les jours pendant 12-13 ans, et ce, en bonne compagnie, et voilà, toujours avec la mentalité du festif, du bon moment.
En 2002-2003, vous avez des problèmes de santé récurrents et vous utilisez l'alcool comme anesthésiant physique et psychique.
Oui, donc c'était des abcès qui revenaient de façon récurrente. J'étais suivi par une dermato, ce qui était pas le bon plan, parce que ce qu'il me fallait, c'était un chirurgien. Et c'est seulement après 2 ans que j'ai été vers ce chirurgien. Et donc chaque fois que les abcès revenaient, je savais que la douleur allait être vraiment intolérable. Et donc là, je buvais de plus en plus. Et c'est vraiment le seul truc qui m'anesthésiait, comme vous l'avez dit, de façon physique et psychique. Et voilà, après 2 ans, on a trouvé la solution. Mais le problème, c'est que l'alcool était là et la dépendance était vraiment là. Et voilà, je ne savais plus m'arrêter et je buvais à partir de là. Je buvais pas la journée, mais je buvais de 19h à 1h du matin, où tous les jours je tombais. Et voilà, jusqu'à 12-13 heures, j'avais encore de l'alcool dans le sang qui faisait que je supportais. L'après-midi était difficile. Et en fait, je renaissais chaque jour avec mon premier verre d'alcool vers 18h-19h.
Ensuite, vous avez une décision à prendre qui est celle d'arrêter, de partir en cure. On reviendra tout à l'heure sur les cures, mais trois personnes ont joué un rôle important dans votre vie.
Oui, alors mon cousin qui, même si mes copains, même si ma famille, mon entourage faisaient des remarques, mais mon cousin, c'est le seul qui est venu et qui m'a dit... Parce que quand on vous parle, on fait des comparaisons avec quelqu'un d'autre qui boit trop, machin, bidule. Vous l'entendez pas. Par contre, mon cousin, clairement, il s'est mis devant moi, il a dit « t'es un alcoolo, tu gâches ta vie ». Et
tu mérites mieux.
Tu gâches la vie des autres. Tu mérites mieux, c'est une autre personne qui était très proche de moi. Et un jour, on était dans un magasin, et d'un simple regard, voilà, on faisait des courses, et d'un simple regard, moi j'ai pris une bouteille de vin, parce que manger c'était avec du vin, j'ai pris une bouteille de vin, et j'ai eu un regard qui disait... Tu vaux mieux que ça, t'as pas besoin de ça pour être bien. Et la troisième personne, et c'est très important, enfin les deux autres personnes sont très importantes, merci à mon cousin, mais la troisième personne qui est très importante, c'est mon médecin traitant, qui me suivait depuis des années, et qui voyait depuis des années les gammages étaient augmenter. Quand j'ai arrêté de boire, j'étais à 700, il faut savoir que la moyenne est de 50-60. Elle a pris un lundi en pleine consultation ouverte, elle a pris une heure. Donc je me suis fait flinguer à la sortie, mais elle a pris une heure et je suis sorti avec un rendez-vous à Saint-Luc.
Ça c'est à souligner parce que c'est excessivement rare que les médecins généralistes prennent autant de temps et accordent autant de temps avec une maladie qui n'est pas bien comprise même par le corps médical. Donc c'est très important d'être tombé sur la bonne personne au bon moment. Grâce à ce médecin, vous rentrez en cure, on y reviendra dans quelques instants. Cette cure se passe plus ou moins bien. Et vous en sortez, c'est vrai.
Oui, maintenant, voilà, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, depuis 2-3 ans, elle voyait mes prises de sang, et donc elle était prête. Elle était prête à m'aider, et voilà, c'était vraiment très très important. Maintenant, c'est vrai que la cure, voilà, moi j'ai pris, donc c'est la cure à Saint-Luc, où on remplace l'alcool par du Valium. Moi, j'avais jamais pris de Valium avant, donc le Valium a vraiment fait le travail, a fait le taf. Et le manque de l'alcool s'est très vite estompé grâce au Valium. Maintenant, je me suis retrouvé pendant 10 ans avec deux boîtes de Valium constamment chez moi que j'ai jamais, jamais, jamais utilisées. D'ailleurs, j'en ai remplacé une parce qu'elle était périmée après 5 ans. Et voilà, et je suis sorti, c'est vrai que le jour où je suis sorti de Saint-Luc, c'était septembre-octobre, il faisait très beau, j'avais l'impression d'être en vacances presque, et voilà, j'étais bien, je revivais, je le sentais après 3 semaines, je revivais.
Merci Pierrick pour ce partage. On a vaguement vu vos parcours de buveur. Il y a dans vos deux parcours, hein, il y a un moment où vous avez décidé de rentrer dans une cure. Pas parce que c'était un plaisir ou un rêve d'enfant, c'est surtout parce que la médecine voulait que vous soyez encadré à un instant T pour vous faire médicaliser, médicamenter et recevoir les premiers soins parce qu'on n'arrête pas de boire du jour au lendemain comme ça. Donc, vous, Greg, c'était à quelle période cette cure ?
Eh bien, j'avais 36 ans et j'ai été conseillé par un oncle qui avait eu cette expérience, qui avait eu un parcours de vie très compliqué et donc qui était passé par un hôpital du côté de Leuze, en Hainaut. Et donc, il m'avait dit, viens avec moi, je vais te présenter à l'équipe. J'ai eu un très bon contact avec ces gens, avec le médecin psychiatre et les infirmières. Et puis, 15 jours plus tard, j'étais inscrit, j'ai démarré une cure. La veille de Noël, je voulais vraiment passer les fêtes là-bas, parce que c'est toujours des périodes difficiles, évidemment, hein. Noël, Nouvel An, beaucoup de tentations, et je suis rentré là, j'ai été aussi sous médicaments assez forts pendant 3 semaines, 1 mois, et après 1 mois, quelques visites de la famille, quelques visites d'amis, j'ai pu rentrer chez moi et faire un aller-retour pour voir un petit peu ma fille et ma femme qui étaient à la maison. Et je me suis arrêté dans une pompe à essence pour acheter 2 canettes que j'ai bues en chemin. Donc, je me suis dit, à la fin du week-end, je ne suis pas prêt. Et je suis retourné en cure, parce qu'il m'avait dit, hein, tu restes autant que tu veux. Et je suis encore retourné 3 semaines, et après 3 semaines, je sentais que cette fois-ci, j'y étais. Ces cures sont vraiment très chouettes parce que vous êtes suivi, vous avez des activités, vous avez du sport, de l'escalade, des ateliers bricolage, etc. Donc on n'est pas juste dans des... Bon, il y a des groupes de parole aussi, on n'est pas juste dans un cadre rigide. On fait plein de choses qui vous permettent de vous évader et d'avoir la tête qui est remplie par autre chose que cette envie ou ce besoin. Et donc voilà, après ces 7 semaines-là, je suis rentré à la maison et plus jamais je n'ai repris de la boisson.
Vous étiez suffisamment fort à ce moment-là.
Mais oui, et j'étais motivé évidemment, parce que voilà, on avait une fille à ce moment-là et on voulait d'autres enfants, donc il y avait déjà des motivations familiales. Et aussi, bon, le sport, j'aimais beaucoup le sport et je me rendais bien compte que j'étais devenu plus aussi performant. Au niveau boulot, même chose, évidemment, quand on boit pas mal, évidemment, en termes de réactivité et de cognition, ben, tout ça plombe un peu. Donc, une nouvelle vie a vraiment redémarré, nouveau job.
Suite à cette cure, donc, on y reviendra dans quelques instants. Quant à vous, Pierrick, c'est dans une cure médicalisée, dans un hôpital à Saint-Luc, si je ne m'abuse.
Oui.
Et le déclic, ça a été ce médecin qui vous a fait aller en cure.
Voilà, ce médecin était assez branché Saint-Luc, je veux dire, parce que pour mon fils et pour moi, on a eu besoin de plusieurs spécialistes, et c'était chaque fois sur Saint-Luc qu'elle nous guidait. Mais non, c'est vrai que c'était très médicalisé, contrairement à Grégoire. C'est vrai que là, il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas d'atelier, d'escalade, il n'y avait rien. Et donc la première semaine, c'était presque exclusivement consacré au check-up. Donc on avait beaucoup, beaucoup d'examens pour voir dans quel état on était. À la fin de la semaine, il y avait le grand méchant qui arrivait, qui était le professeur Starkel, qui est gastro-entérologue, qui disait « vous allez tous mourir » et qui un peu nous faisait peur. Et puis il y avait une semaine de tests en dehors. Alors on pouvait demander un certificat médical pour ne pas travailler. Moi je l'ai fait et j'ai passé la semaine de test chez ma maman à la mer. Donc en même temps ça m'a fait des vacances. Et la deuxième semaine de cure, donc la troisième semaine effectivement, était consacrée au psychologique et à la mise en place de l'abstinence. Mais donc là il y avait très très peu d'activité et donc... Voilà, on parlait entre nous, et ce qu'il y avait aussi, c'est que on réfléchit énormément entre les séances de psy à ce qui a été dit.
Mais dans vos deux parcours, la cure était obligatoire.
Oui, dans mon cas, clairement, j'étais bien aidé de la part de la famille, des amis qui me poussaient, qui me disaient qu'il était grand temps. Mais je le savais, évidemment, je pense que tout qui fume ou boit sait qu'il est en train de mettre sa vie en péril et qu'il est temps de se prendre en main, surtout que quand les années commencent à s'additionner. Donc oui. Voilà, je savais quelles étaient mes faiblesses et il fallait quelqu'un pour m'épauler. Et dans ce cas-là, ben, j'ai fait confiance à une équipe dont j'étais vraiment très content. Chaque année, je retournais les remercier quand j'étais dans la région. Et ils m'ont dit, ben, c'est pas nous qu'il faut remercier, c'est toi. Parce que je pense que l'effort, au départ, ben, vient de la personne. Mais l'encadrement et la motivation étaient quand même bien présentes.
Bien présentes. Moi, je vais un petit peu me permettre, avant une petite pause musicale, de dédiaboliser ce qu'on appelle une cure. C'est quelque chose qui, dans la plupart des cas, est presque obligatoire, parce que, comme on le disait tout à l'heure, arrêter du jour au lendemain est dangereux pour la santé. Et en fait, une cure, c'est juste pour nous permettre de passer de buveur à abstinent, en douceur, médicamenté, avec des molécules qui vont faire en sorte que ben, on n'aura pas ce contre-coup de je buvais, je bois plus. Mais en plus, on va savoir à quel point ressemble notre foie, nos organes, notre cœur, nos poumons. Et on va faire la connaissance des différentes spécialisations médicales, des psychologues, des psychiatres, et surtout, et je termine là-dessus, on va avoir affaire à des personnes qui sont dans le même état que nous au même moment et qui ne vont pas nous juger, qui vont nous comprendre, et notre famille va nous mettre sur un piédestal plutôt que nous diaboliser. Donc une cure, c'est quelque chose qui est terrible dans le parcours d'un buveur qui souhaite arrêter.
Sans accroc avec Alexandre. c'est sur BXFM.
Pierrick et Greg en studio de BXFM pour nous parler de leur vie après l'alcool et de nous montrer qu'après 16 et 25 ans, eh bien, l'alcool n'est plus du tout dans vos vies et vous en vivez bien. Et pour montrer aussi que quand on arrête de boire, on peut arrêter sur du long terme et vivre de mieux en mieux. Mon cher Greg, l'alcool, l'alcoolisme, c'est une maladie qui ne se guérit pas, mais qui se soigne. Vous êtes d'accord ?
Je suis tout à fait d'accord. C'est évident que on est tous confrontés avec cette période qui s'allonge. Et donc, tenir sur le long terme, et comme j'expliquais en début d'émission, c'est de plus en plus facile. Ce n'est pas pour ça qu'après 20 ans, on peut dire, voilà, je ne suis plus alcoolique, je peux y aller. Mais il y a tellement de possibilités de faire la fête, de boire, de trouver des boissons qui nous conviennent, qu'on ne pense même plus à la boisson après un certain temps, qui va dépendre de tout un chacun, de ce qu'il a mis en place pour passer outre, que ce soit en termes d'activité, de sport, de cérébral ou de physique. Et donc, oui, on reste un alcoolique, comme on le dit lors des séances.
À vie.
Voilà, à vie. Et personnellement, je pense que j'ai fait un jour une erreur de verre. J'ai pris un verre dans lequel il y avait de l'alcool par erreur. Je n'ai pas replongé parce qu'il y avait déjà plus de 20 ans. Mais ce n'est pas le genre de choses que je ferai après 2 ans.
Pierrick, l'alcoolisme, c'est encore tabou ?
Non. Moi, je n'ai pas l'impression que l'alcoolisme est tabou. Au contraire, bon, on voit, tu as dit qu'on était au cours d'alcoolologie, on voit que tout est fait, tout est mis en place pour que, alors que le mâle de 40 ans est bien dans l'alcool, donc il ne doit plus être une cible de la publicité. Les jeunes et les femmes aujourd'hui sont les cibles des publicitaires. Donc, non, pour moi, ce n'est pas tabou. Par contre, l'alcool est une problématique dans pour beaucoup de personnes et dans beaucoup de familles. Mais non, l'alcool n'est pas tabou. Par contre, moi, je dirais peut-être que parler d'alcool est tabou. Dire à quelqu'un qu'il est alcoolique, oui, ça, on ne va pas le dire.
Mon cher Greg, est-ce que la fête est plus folle sans alcool ? Et soyez totalement honnête et transparent.
La fête, elle est tout à fait faisable et c'est vrai qu'on ne l'envisage pas quand on est encore alcoolique ou qu'on n'a pas décidé d'arrêter. Mais il y a, comme je disais, tellement de possibilités de boire d'autres choses qu'on n'y pense même plus. Et que, voilà, je prends des exemples de tous les amis encore ce week-end, me connaissent maintenant vraiment avec toujours des boissons non alcoolisées et je suis bout en train autant que je ne l'étais à l'époque où j'avais une bière ou un whisky en main que sans ça. Donc vraiment, faire la fête, ce n'est pas une question de boisson, c'est une question d'entrain et de vitalité.
Pierrick, on doit faire le deuil et une fois que ce deuil est fait, on n'y pense plus ?
Alors, on doit faire le deuil, je ne crois pas. Maintenant, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que on est alcoolique à vie. Moi, je pense vraiment que ou qu'on ne guérit jamais de l'alcool. Moi, je crois vraiment qu'on peut guérir. Alors, c'est clair que Greg et moi sommes abstinents dans les faits, mais pour moi, il est important de dire que je ne considère pas aujourd'hui d'être abstinent, c'est-à-dire je ne me retiens pas de boire. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de boire. Et comme disait Greg, il y a beaucoup de choses qui font que, par exemple, les bières sans alcool, tous les cocktails que les restaurateurs et les bistrots proposent, qui sont parfois à la base de jus de fruits, mais qui sont des mélanges qui sont très festifs, suffisent à faire la fête.
Quand vous dites que vous ne pensez pas à la non-guérison, c'est-à-dire que si dans 5 ans vous décidez de reboire, vous pensez que vous pourriez retrouver une consommation normale et modérée ?
Ça non. C'est vrai que je dis, on est abstinent dans les faits. Moi, je voulais mettre l'accent sur le fait de abstinence et se retenir. Ne pas avoir envie, c'est autre chose. Moi, j'ai plus besoin de l'alcool et je suis bien mieux sans alcool. Donc, je ne me retiens pas. J'en ai plus envie et ma vie est très belle comme ça.
pour rien au monde, vous ne retourneriez dans celle d'avant.
Dans le sens de Pierrick également.
Merci, monsieur.
Je n'ai pas non plus envie, je peux humer un bon verre de vin de mon voisin sans avoir envie de boire dedans, mais j'apprécie en servir pour les amis et ça ne me pose aucun problème après toutes ces années.
Justement, vous me faites une belle transition. Est-ce que vous avez changé d'amis ?
Pas du tout. Que du contraire. Alors, c'était les premiers. Bon, c'est l'avantage d'avoir des amis de longue date, mais c'était les premiers à m'encourager à arrêter à l'époque parce qu'on faisait la fête et on exagérait. Mais ils m'ont très fort soutenu. Après le sport, plutôt que de boire 5 bières, ben, on est tous passés au soft. Eux n'étaient pas dans un besoin d'arrêter, mais voilà, être soutenu par son entourage est important. Et j'ai toujours les mêmes amis. Et ceux dont je vous parlais ce week-end, ben, ce sont ceux qui m'ont connu il y a 30 ans, ou encore il y a 26 ans, avant que je ne prenne cette décision. Et voilà, ils sont tous admiratifs et donc c'est une bonne aide aussi.
Vous voulez rebondir là-dessus, 10 secondes, Pierrick.
Oui, simplement pour vous dire que moi, mes amis qui étaient là quand j'ai arrêté de boire sont devenus, dans les mois qui ont suivi, mes gardes du corps. C'est-à-dire quand on allait au bistrot où on allait avant, ils sautaient sur le serveur si le serveur arrivait avec 4,33 alors que moi, il fallait un coca à la place, quoi.
Les groupes de parole, vous, Pierrick, vous y êtes allé pendant 3-4 mois.
Voilà, donc entre le moment où j'étais chez mon médecin traitant et le moment où je suis rentré en cure, j'ai été au AA pendant 3-4 mois. Et j'ai eu la chance, le premier jour où j'ai été, d'avoir un accueil. C'est-à-dire qu'au AA, il y a parfois un accueil où chaque intervenant va raconter une histoire qui correspond chaque fois à un scénario bien différent. Mais on se dit très vite, parce qu'il y a 4-5 histoires qui vous concernent d'office, vous qui avez bu, et on se dit non, on n'est pas tout seul, et oui, on peut s'en sortir. Ça, c'est pratique. Mais non, moi, je ne suis pas très groupe de parole, et j'ai eu la chance à la cure à Saint-Luc de rencontrer quelqu'un qui faisait la cure en même temps que moi, quelqu'un qui, pendant 4-5 ans, on est resté en lien, en termes. Et chaque fois qu'un de nous deux avait une difficulté, un problème relationnel, chaque fois, à deux, la magie a fait qu'on a trouvé une réponse ou une solution à notre problème. Et donc, voilà, j'ai eu mon AA personnel.
Vous avez créé un petit groupe de parole à deux.
À deux, et voilà.
C'est primordial d'être compris par quelqu'un et de partager.
C'est un de vos homonymes, donc je remercie Alexandre, Alex.
Greg, vous, les groupes de parole, non, jamais?
J'avais essayé aussi avant la cure, j'avais été voir les AA et les AA. Et ce sont des gens forts, voilà, comme dit Pierrick, forts, proches l'un de l'autre et donc ils se soutiennent vraiment. Ça, c'est la particularité des AA. Voilà, moi ça ne me suffisait pas. J'avais besoin de quelque chose de plus fort et donc j'ai retrouvé en faisant du coaching, en faisant une certification de coaching il y a 7-8 ans. Voilà, beaucoup de bienveillance parmi ces gens avec qui on échangeait beaucoup dans le cadre de nos exercices et de notre pratique. Et donc, voilà, ça, entre les amis, entre ce genre de discussion, ça m'a apporté. Voilà, c'est une autre sorte d'échange.
Oui, parce que l'échange doit avoir lieu pour que ça se passe bien. Il ne faut pas garder ça pour soi, il ne faut pas faire cavalier seul. Alors, moi, chers auditeurs, vous êtes au courant que j'ai aussi quitté l'alcool il y a bientôt 9 ans. Et ma troisième version, c'est « Je ne serai rien aujourd'hui sans les groupes de parole. Ça fait 9 ans que j'y vais, et j'y vais encore, et j'irai jusqu'à la fin de mes jours, je pense. » Donc, effectivement, il faut tout pour faire un monde. Chacun trouve dans son parcours d'abstinence les outils dont il a besoin, dont il a envie, et se sépare de ceux dont il n'a pas envie. Sur 1000 profils de buveurs, il y a 1000 profils différents, donc on a chacun.
Je crois qu'on doit trouver, en la méthode empirique, hein, essai-erreur, on doit trouver notre propre façon de fonctionner et aller vers les personnes ou les méthodes qui vous vont le mieux. Il faut pas hésiter, je veux dire, voilà, c'est vous qui comptez, enfin c'est voilà, et c'est le plus important, c'est la façon dont chacun est le mieux avec ça.
On va clôturer cette émission et discuter de la raison qui nous unit ici, qui est celle par laquelle nous nous sommes rencontrés dans un certificat interuniversitaire en alcoolologie que nous suivons actuellement tous les trois. Et comment vous est venue cette idée, Greg, on va commencer par vous, d'intégrer cette formation, d'obtenir ce certificat ?
Bien justement, je parlais du coaching tout à l'heure. J'ai envie vraiment de me lancer plus dans le côté positif de ce qui m'a un peu pourri la vie il y a 25 ans, même beaucoup. Et donc c'est une manière de personnaliser plus ce rôle de coach qui est assez vaste dans le monde actuel. Il y a beaucoup de coachs de vie qui se proposent. Et ici, c'est après le Covid, après toutes ces années un peu difficiles, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de sortir de ça. Et donc, j'ai envie de me spécialiser plus dans cette orientation qui peut faire profiter, enfin disons que mon expérience peut être profitable pour d'autres personnes.
Votre expérience vaut de l'or, sachez-le. Quant à vous, Pierrick, pourquoi est-ce que vous avez bifurqué dans cette direction ?
Alors, moi j'ai envie de dire, alcoolique plus psychologue égale alcoologue, c'est QFD. Non, plus sérieusement, moi je voulais dire que quand j'ai arrêté la cure à Saint-Luc, j'avais reçu quelques noms d'alcoologues et je n'ai vu personne pour la simple raison, c'est que sur les cinq, il y en a deux qui m'ont répondu qu'ils n'avaient plus de place et les trois autres, je n'ai jamais eu de nouvelles. Donc, et je vois aujourd'hui au cours que beaucoup de professionnels dans l'abstinence ont des problèmes, enfin voient qu'il y a des problèmes pour avoir accès. Et donc, je crois que c'est important qu'il y ait des alcoologues et je crois que c'est important qu'il y ait une personne comme nous. Je crois peut-être que c'est l'idéal. Donc, des pères qui savent de... On sait de quoi on parle, on l'a vécu, on est au courant de la problématique. En tant que psychologue, je sais écouter et aider les gens et surtout aider les gens à trouver leur propre solution.
Alcoologue, alcoolique, c'est un petit peu notre destin à tous les trois. Messieurs, une note sur 10 pour votre vie actuelle sans la boisson. Greg ?
Oh ben écoute, moi c'est 10 sur 10 sans la boisson. Oui, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre vie.
Moi je dis 9,5 parce que je mets toujours 9,5 sur 10 parce que la perfection n'existe pas.
Si un Jacques Martin donnait un 10 tous les dimanches à l'époque.
Oui monsieur.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions,
merci,
c'est beaucoup
Alexandre.
Trop court. Comme chaque émission, mais c'est
merci
comme ça, un autre portrait la prochaine fois. Chères auditrices, chers auditeurs, vous avez une petite question concernant vos additions. Vous rejoignez ma page Facebook Alexandre B. Coaching, je me ferai un plaisir d'y répondre et on se quitte en musique. À la fois prochaine, bye bye.
L'alcool, la cigarette, la drogue, les médicaments, le café, le jeu et le sexe sont des addictions et dépendances parmi tant d'autres. Vous en êtes sorti ? Venez nous raconter votre parcours. Votre histoire, c'est dans Sans Accro sur BXFM.